Face à l'info sur la première.
Et de ces multiples actions sociales, il en est question ce soir au cœur de Face à l'info avec vos invités, Dick Hackelberg.
Effectivement, Pascal, certains sur les bancs syndicaux parlent de guérilla à mener pour aller au finish et faire tomber le gouvernement. D'aucuns critiquent cette vision politique de la grève et de la manifestation. Qu'en est-il ? Nous en débattrons. Y a-t-il une vérité sur le constat et une erreur sur la méthode ? C'est en gros ce qui ressort d'un message adressé aux grévistes par l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, Peter Timmermans, sera avec nous en tête de cette édition. Que penser de cette réalité dans la rue et de cette réalité de la main tendue par le Premier ministre à la négociation ? Nous poserons la question ensuite à Pascal Deluit, politologue de l'Université libre de Bruxelles, et à Christine Mailly, secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté.
Soir première,
face à l'info.
Merci d'être face à l'info. Bonsoir Peter Timmermans.
Bonsoir.
Alors, vous avez en quelque sorte sorti une lettre ouverte aux grévistes, hein, que vous entamez par chers grévistes. Vous dites qu'ils se sentent probablement incompris, en colère, frappés d'injustice, qu'ils s'insurgent contre toute une série de choses, qu'ils demandent plus d'argent pour les prisons ou davantage de moyens pour la SNCB, et vous dites comprendre ces sentiments et ces demandes. Ça veut dire que vous ne partagez pas la méthode, mais que vous êtes d'accord sur les constats ?
Ben je comprends l'inquiétude de certains grévistes. Et donc, je n'ai aucun problème de mener un débat là-dessus. Et donc, mon message était très clair. Point taken, comme on dit en anglais. J'accepte votre inquiétude. Je ne suis pas d'accord avec la méthode. Mais maintenant, c'est autour de la table qu'il faut débattre. Et je voudrais simplement rappeler une chose. Quand j'entends certains disent « Oui, il faut faire tomber le gouvernement. » Ça, c'est le but final. Mais je dis simplement, réfléchissez un instant. En 1975, vous avez fait la même chose. Le gouvernement Timmermans est tombé. Mais les problèmes restent les mêmes, ne changent pas. Aujourd'hui, on dit le but, c'est de faire tomber le gouvernement. Mais par après, le coût du vieillissement, ça ne change pas. Les réformes structurelles nécessaires pour rendre plus attractif, je dirais, notre marché de l'emploi, pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour faciliter les investissements, etc., les problèmes resteront les mêmes. Et donc, mon message est très clair. On a compris qu'il y a un problème. Discutons. Et j'ajoute encore une chose. Je suis pas d'accord avec la méthode. Je ne partage pas non plus toutes les choses qui ont été dites parce qu'à mon avis, il y a des erreurs qui ont été communiquées, par exemple, autour de la semaine de 38 heures. Mais le moment est venu pour débattre parce qu'autrement, qui sera la victime finale de toutes ces actions? C'est le travail même, l'emploi, parce que j'entends maintenant de plus en plus au sein du monde patronal. Attendons un instant, nous sommes prêts à faire des investissements, mais nous allons attendre jusqu'au moment que la sénilité retourne. Et donc voilà, ça c'est la situation actuelle.
Oui, vous dites donc, l'investissement risquerait de se tarir ou de se retarder si le climat reste instable, mais qui a la responsabilité de ce climat? Vous dites mauvaise communication de part et d'autre. Vous dites, manifestement, j'ai compris, nous avons compris, il y a un problème. Ce problème, ne fallait-il pas le comprendre il y a des semaines? Fallait-il attendre qu'on en soit là?
Mais le 3 mai, le groupe des 10 s'est réuni. J'ai proposé alors aux leaders syndicaux, dressons une liste avec des questions à poser au gouvernement. C'est toujours la première étape. Quand on veut négocier avec quelqu'un, c'est d'objectiver le débat, de poser des questions, d'obtenir des clarifications, des précisions. Et seulement à ce moment-là, on peut, comment dirais-je, informer ses membres correctement. À ce moment-là, on peut demander un mandat. Et si par hasard, on n'est pas d'accord, alors on peut manifester parfaitement. Je comprends ça parfaitement. Donc, on a proposé cela, justement pour éviter des tensions, pour éviter des grèves. On a dit non.
Mais est-ce que vous aviez, Peter Timmermans, dans votre collimateur, ce mal-être, cette paupérisation de nos prisons? Est-ce que vous aviez dans le collimateur ces magistrats qui aujourd'hui disent nous sommes face à un État voyou qui ne remplit pas ses missions de justice? Est-ce que vous aviez conscience de ça? Ça ne se règle pas au sein du groupe des 10.
Non, attends. Donc il y a deux choses. Il y a des actions d'un côté contre le gouvernement et contre les mesures en matière d'organisation du travail, en matière de flexibilité. Et parfois, c'est mélangé avec d'autres problèmes dans la prison et dans la fonction publique.
Mais vous les reconnaissez dans votre lettre. Hein, vous dites, il y a aux investissements publics, vous dites, nous sommes terriblement à la traîne.
Et donc, l'AFB vient toujours avec des suggestions pour solutionner un problème. C'est pour ça que j'ai dit clairement, il y a des problèmes au niveau de l'investissement. Il y a, au niveau de l'investissement dans l'infrastructure publique, il y a des problèmes. Je reconnais ça et je propose alors qu'on assouplit les règles assez dures et assez strictes d'Eurostat par rapport aux investissements. Aujourd'hui, quand on veut faire un investissement, par exemple dans le tram de Liège, c'est l'exemple que j'entends toujours, il faut prendre en une fois en charge cet investissement. Budgétairement, c'est du non-sens. Donc je propose qu'on dit et qu'on demande à l'Europe une exception. Mais je ne veux pas non plus que maintenant on ouvre la porte à 100%. Parce que notre taux d'endettement dépasse encore les 100%. Donc, j'ai proposé un plan d'investissement très ciblé. Pour moi, la mobilité est une priorité qui préoccupe tout le monde, travailleurs, employeurs, citoyens, pensionnés et autres. Certains investissements dans certaines infrastructures, comme par exemple la prison, c'est aussi nécessaire. D'ailleurs, j'ai compris que le ministre Gaines a fait, au nom du gouvernement, une proposition pour des investissements supplémentaires dans ce domaine-là. Donc voilà, une proposition concrète pour solutionner le problème. Ça, c'est l'AFB. On reconnaît un problème, mais ce que nous n'accepte pas non plus, c'est de dire, comme les syndicats nous ont dit à un certain moment, retirons tout et nous allons nous occuper de ce problème entre nous.
Oui, mais le Premier ministre dit aussi, pour l'instant, asseyons-nous à table pour aller plus loin par rapport à ce qui est proposé, parce que ce sont les bonnes décisions. Manifestement, la rue considère que ce ne sont pas les bonnes décisions.
Certains dans la rue, quand je vois les réactions sur ma lettre, ma page Facebook et sur Twitter et autres, il y a d'autres gens qui disent non, c'est une bonne solution, c'est une bonne proposition. Donc dans la rue, je dis, certains syndicalistes sont apparemment pas d'accord avec ce que je propose, mais je reçois quand même pas mal de réactions positives de l'autre côté qui dit, voilà, ça c'est la voie à suivre.
Est-ce que vous avez déjà une formation syndicale qui vous a dit, ok, je m'assois à table avec vous maintenant, demain?
Je n'ai rien reçu jusqu'à présent. J'espère une chose, que les leaders syndicaux réfléchissent deux fois avant de dire non.
Dans votre lettre, vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, vous dites qu'un gouvernement Tindemans s'est tombé à cause de la pression de la rue et que ça a entraîné ensuite des conséquences. Les gouvernements Tindemans sont tombés sur d'autres raisons que les manifestations liées à la crise.
Non. C'était contre le gouvernement Tindemans en 1975, contre le plan de réforme de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 4 semaines d'action, le gouvernement est tombé. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on a dû faire? D'évaluer le front belge.
C'était un gouvernement, Martens Goll, qui a dévalué deux fois le front belge. Les partis libéraux actuels assument-ils votre façon de parler de paupérisation linéaire et générale de la population?
Oui, mais c'était pendant les années 70. J'ai voulu simplement souligner une chose. Faire tomber le gouvernement, ça ne résout pas les problèmes. Et donc, il ne faut pas dire aux gens, faisons tomber le gouvernement et vos problèmes ne sont plus là. C'est faux. Aujourd'hui, le coût du vieillissement est là. Et si le gouvernement tombe, il n'y aura pas un euro en moins de coût
Pour vous, there is no alternative. Ça veut dire qu'une autre formation de gouvernement, une autre couleur de gouvernement, ce sera la même politique.
Ah oui, je suis convaincu, le vieillissement est là. les problèmes du marché de l'emploi sont là. L'Europe nous a dit, et l'AFME et d'autres nous a dit ce que nous devons faire. Donc les remèdes sont les mêmes. Et donc c'est faux de dire aux gens, aux citoyens, faisons tomber le gouvernement et vos problèmes sont résolus.
Sur quoi peuvent-ils négocier avec vous et le gouvernement demain, Peter Timmermans? Quels sont les degrés d'ouverture? Ce qu'ils appellent des cacahuètes aux entournures ou du fond?
Il faut d'abord être autour de la table et à débattre ouvertement des problèmes. Je n'ai jamais entendu, sauf des slogans. J'ai entendu ce sera la semaine de 45 heures. Ben, j'ai dit alors, la semaine d'après, ce sera une semaine de 31 heures parce qu'en moyenne, c'est 38 heures. Est-ce qu'on peut débattre de combien de semaines il faut travailler un peu plus et combien de semaines il faut travailler moins? J'ai entendu dire à un certain moment, ah, ce sont des l'employeur peut vous appeler la veille pour que vous pour travailler le lendemain. Est-ce qu'on peut débattre de cette période? Est-ce qu'il faut le faire la veille? Est-ce qu'on peut le faire 2-3 jours auparavant? Ce sont des choses qu'on dit dans la rue qui sont pas vraies, qui sont faux. Je n'ai pas encore vu un texte de loi. Donc il y a encore moyen de débattre sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais qu'il faut un peu plus de souplesse pour pouvoir attirer des entreprises dans le domaine, par exemple, de l'e-commerce, c'est quand même une certitude. C'est quand même un peu bizarre que tout le monde veut commander son livre et la livraison le lendemain par à une entreprise hollandaise. Pourquoi pas par une entreprise belge, que ça créera de l'emploi davantage en Belgique. Voilà.
Bien, mais voilà un programme en tout cas que vous proposez. On verra dans les jours et semaines qui viennent et on se retrouvera alors avec les autres interlocuteurs et vous-même pour voir sur quelle piste vous pouvez marcher. Merci en tout cas ce soir, Peter Timmermans, de nous en avoir donné les grandes orientations. Voilà Pascal, dans un instant on se retrouve avec nos autres invités pour essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre dans la rue.
Soir première. Face à l'info.
18h45 sur la première et ce soir avec vous, Eddy Kakelbergs, dans Face à l'info, il est question des différents mouvements de grogne qui se déroulent en grande partie au sud du pays.
Nous avons à présent Pascal Deluit avec nous et Christine Mailly. Pascal Deluit, bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, précision historique. Lorsque Peter Timmermans réaffirme ici, ce qu'il écrit hein, par ailleurs, qu'en 1975, la rue a fait chuter un des gouvernements Tindemans et que pour conséquent, 7 ans plus tard, en 82, le gouvernement Martens-Goll, après dévaluation, a entraîné, je cite, hein, une paupérisation linéaire et générale de la population suite à la dévaluation du franc. Il dit la vérité ou il nous berne?
C'est-à-dire, je ne saisis pas très bien son propos. D'abord, en 1975, le gouvernement Tindemans n'a pas chuté. Le gouvernement Tindemans a chuté en 1977 et il s'est reconstitué d'ailleurs avec un gouvernement Tindemans II, avec des partenaires différents, mais la grande question de l'époque, c'est d'abord une question de nature institutionnelle, hein, puisque la thématique qui est au cœur, c'est l'article 107 quater autour de la mise en place de la région de Bruxelles-Capitale, et c'est ça qui anime à ce moment-là le débat, et aucun gouvernement Tindemans n'a chuté suite à des actions syndicales en tout cas.
Alors, cette évaluation par contre faite par la FEB, en tout cas par son administrateur délégué, sur les conséquences de la dévaluation, la double dévaluation d'ailleurs de 82, du franc à l'époque, je le rappelle, paupérisation linéaire et générale de la population, c'est un constat posé ici par le patronat, un constat bizarre dans la bouche du patronat, non?
Oui, c'est un constat bizarre parce que traditionnellement, je dirais dans les milieux patronaux, le gouvernement Martens-Goll est considéré comme un gouvernement de référence et parler d'une mesure en 1982, c'est-à-dire à l'initiative du gouvernement Martens-Goll d'une mesure de paupérisation générale et linéaire, c'est pour le moins curieux. Il faut néanmoins rappeler que en Belgique comme en Europe de manière générale, la deuxième moitié des années 70 ont été des années socialement tendues, mais aucun mouvement social ou aucune grève n'avait débouché sur la chute du gouvernement. Mais on se rappellera que le gouvernement Martens et puis le gouvernement Eskens, eux, ont été dans une dynamique complexe avec le mouvement syndical. Mais certainement pas le gouvernement Tindemans.
Bonsoir Christine Mailly. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Vous ne manquez pas d'ailleurs d'appeler ces dernières semaines à la mobilisation. Vous vous êtes de celles et de ceux qui estimaient que le gouvernement est responsable d'une paupérisation généralisée, voire même d'un hold-up. Les mots sont forts dans la rue, comme sur beaucoup de bancs. Est-ce que c'est une grève et une manifestation politique? Est-ce qu'en clair, l'ensemble des réseaux veulent la peau du gouvernement?
Je ne me positionnerai pas en disant on veut la peau du gouvernement, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que ce gouvernement-ci doit être interrogé sur les conséquences des décisions qu'il prend. Et donc depuis qu'il est entré en vigueur, il prend des conséquences terriblement accablantes pour des parties entières de la population. Hein, on l'a vu sur le chômage, on le voit sur les allocataires sociaux, on le voit maintenant sur les travailleurs par les réformes qui vont arriver. On sait quand même qu'on a une réalité du travail qui chez nous n'est pas si simple, énormément de temps partiel où des gens ont difficile de vivre avec le revenu qu'ils ont. Donc on voit bien qu'il y a un accablement et que il y a une paupérisation des gens et des ménages dans leur portefeuille, mais aussi des structures, des outils de travail et des conditions de travail. Mmh. Si on prend la SNCB, je peux le prendre comme exemple parce que je suis nafteuse un peu dans tous les sens en Wallonie, mais aussi nous avons beaucoup de militants qui prennent le train. J'ai envie de dire qu'on est beaucoup plus otage depuis quelques années des pannes répétitives, des travailleurs qui sont très fatigués. On discute avec les travailleurs dans le train qui ne peuvent pas prendre leur jour de congé, leur jour de récupération, des retards qui sont dus à des trains manquants, des choses comme ça. Donc on est constamment, tout au long de l'année, mis en difficulté avec ça. Si on prend le monde de la justice, on voit bien qu'il y a un recul terrible, et ce recul terrible, il accablera qui? Les gens les plus faibles dans notre société. Si on prend les prisons, c'est la même chose. Et je pourrais dire d'ailleurs que, connaissant de plus près l'institution CPAS et les mesures que le ministre Borsu veut faire passer au niveau du gouvernement, là non plus la concertation n'est pas réelle. Là non plus ce n'est pas du vrai débat autour de la table. Alors que les CPAS ont fait des propositions d'amendements aux mesures que le ministre Borsu veut mettre sur la table en matière de PIS, donc de plan individualisé d'intégration sociale, de service à la communauté qui sera du volontariat imposé, qui fera perdre de l'emploi local, eh bien il n'y a pas une phrase qui change dans son dispositif et qu'il va proposer à la Chambre prochainement. Donc on voit que sur tous les champs, il est extrêmement difficile de se faire non seulement entendre, mais être en dialogue réel avec ce gouvernement-ci. Donc notre appel, nous, à mobilisation, c'est s'il vous plaît, qu'on soit autour de la table, que les travailleurs soient autour de la table des secteurs.
Lorsque Peter Timmermans ici dit « Ok, mettons-nous à table », on le propose depuis mai dernier. Lorsque Charles Michel, aujourd'hui, par communiqué, dit « Au travail » en disant « Asseyons-nous à table, il y a une marge de négociation », ça répond à votre demande.
Ça répond à la demande à condition que la marge de négociation soit sérieuse. Hein. Si c'est effectivement des cacahuètes à la marge pour, comme je viens d'entendre M. Timmermans dire, par exemple, on pourrait téléphoner la veille, l'avant-veille ou trois jours avant un travailleur qui vienne sur place au travail, il ne faut pas rire quand même. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir le travail, non pas pour que ça soit une organisation de l'emploi exclusivement au profit du capital ou au profit de l'employeur, et une désorganisation de la vie familiale et de la vie privée. Il faut parler d'un équilibre. Donc, comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on est travailleur, par exemple, femme, ce qui est le cas, avec des enfants, pour avoir un temps de travail qui soit organisable de mois en mois, parce qu'on a besoin d'accès à une crèche, parce qu'on devoir se déplacer en transport en commun, parce qu'on devoir peut-être s'organiser avec un conjoint qui devra aller prendre les enfants à la sortie de l'école, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que M. Michel dit quand il dit ça? Alors, il dit ça maintenant parce qu'il y a le mouvement de la rue, probablement, comme M. Timmermans, ça a l'air de se montrer légèrement l'oreille tendue, peut-être parce qu'il y a ce mouvement convergent. Mais on voit bien que dans la rue aujourd'hui, on va dire « Ah ben ce sont les écervelés des prisons, ce sont les écervelés de la SNCB ». Mais la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, ce sera la justice. Demain, ça pourrait être les travailleurs de CPS et les allocataires sociaux. Après-demain, ça pourrait être l'associatif par rapport à l'organisation de son temps de travail. Donc il y a beaucoup d'autres personnes que celles identifiées massivement et qui sont stigmatisées comme des désorganisateurs sociétaux aujourd'hui, alors qu'ils se battent pour quelque chose de plus structuré, de plus structurel et de plus équitable dans le respect des travailleurs. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en colère et qui commencent à sortir et à se montrer de divers milieux.
Alors Pascal Deluit, la question de la marge de manœuvre est politiquement posée. On entend bien, et il y aura deux questions ici. Un, en France, la loi El Khomri met la pression dans la rue, les syndicats sont plus divisés, mais la représentation syndicale en France est plus faible, mais à distance déjà, le président français disait à son Premier ministre, nous tiendrons bon, nous ne cannerons pas. Alors, ça veut dire que à gauche comme à droite, M. Timmermans aurait raison, no alternative ?
C'est-à-dire que la manière dont on mène le débat social et la négociation sociale en France n'est pas exactement identique à celle à ce qu'on fait en Belgique. Traditionnellement, en Belgique, on laisse beaucoup plus de marge d'interprétation, de marge de dialogue, de marge de confection, je dirais, aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux représentants du monde patronal d'une part, du monde syndical d'autre part, d'ailleurs également dans le monde des soins de santé, au monde représentant les médecins et au monde représentant les patients, que sont les mutualités. Et ici, évidemment, ce qui apparaît clairement, et c'est assez logique vu la composition du gouvernement, hein, c'est pas une surprise somme toute, c'est que le banc patronal se sent fort dans la négociation et que la négociation, en fait, n'a que peu de marge de manœuvre. Et parfois même, quand le groupe des 10 s'entend, le gouvernement détricote certaines des mesures. Alors, c'est ça la difficulté, je dirais, pour les acteurs syndicaux. C'est comment, en même temps, assurer la négociation tout en devant retourner vers sa base ensuite. Et voilà, régulièrement, tantôt le Premier ministre, tantôt le gouvernement, tantôt la FEB ou le VOCA disent « négocions », mais chaque fois que les démarches ont été entreprises depuis le début du gouvernement, on voit bien que cette négociation est, je dirais, déséquilibrée par rapport à l'accoutumée.
En même temps, on essaye aussi de soulever l'idée qu'au nord et au sud du pays, la réaction ne serait pas la même et que donc il y aurait, en utilisant les mots, de la gréviculture au sud et une responsabilité au nord.
Mais dans certains domaines, la réaction n'est effectivement pas la même. On l'a observé dans le domaine de la grève des prisons, dans le domaine de la grève à la SNCB. Parfois, pour des raisons objectives, il faut souligner que les investissements qui ont été faits dans les prisons au nord du pays, au sud du pays, ne sont pas de la même essence. Et pour la SNCB non plus. Rappelons que pour la SNCB, on travaille essentiellement dans une clé 60-40, 60 pour le nord, 40 pour le sud, qui ne correspond à aucune réalité, ni sociodémographique, ni territoriale. Donc il y a cet aspect-là. Après, bien sûr, il y a un autre élément qu'il faut pas oublier, c'est que au nord du pays, les organisations représentatives des travailleurs ont encore, je ne vais pas dire une écoute, mais en tout cas un canal de discussion avec un acteur du gouvernement qui est le CDNV, singulièrement entre le CDNV et l'ACV. C'est compliqué, hein, on voit d'énormes critiques dans le chef de l'ACV à l'endroit du CDNV, mais il y a quand même encore un canal de discussion au sud du pays. Et c'est la première fois depuis qu'existe le fait syndical, et d'ailleurs l'État belge de manière plus générale. Les organisations syndicales socialistes et démocrates chrétiennes n'ont aucun partenaire au gouvernement, c'est-à-dire aucun ministre qui vienne soit d'un parti de la gauche, soit du CDH, et bien sûr, par définition aussi, aucun acteur dans les cabinets ministériels qu'ils peuvent rencontrer et auquel ils peuvent expliquer leur point de vue.
Hyper brièvement, lorsqu'on dit grève politique pour faire chuter le gouvernement, c'est légitime ou illégitime ?
C'est largement illégitime, bien que certains acteurs du monde syndical y songent, à mon avis, sans espoir, mais y songent.
Merci. Ce sera sans doute d'ailleurs le thème d'un des prochains débats. Hein. Est-ce que la loi de la rue peut remplacer la loi des urnes ? Mais pour ce soir, on en restera là, Pascal.
Merci à vous, Eddy.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine, de 18h30 à 19h.